Page 140. On va travailler les noms propres. D'abord des références géographiques. Esma Alam Géographie. Qita Gaza, donc on prend par colonne. Qita Gaza, c'est la bande de Gaza. Et là, c'est sous blocus dans l'indifférence générale. Ensuite, El Maghreb. El Maghreb, c'est le Maroc. Si on dit El Maghreb l'Arabi, c'est le Maghreb. Misr, c'est l'Égypte. Et pour rappel, souvent les Arabes disent Masr ou Masr. Les Égyptiens, lorsqu'ils disent Masr, ils parlent du Caire. Mais officiellement, le nom du pays, c'est Misr. Quelques villes, El Khalil, c'est Hébron, en Cisjordanie. Al-Basra, dans le sud de l'Irak, qui a été fondée par les Arabes venus d'Arabie, les musulmans, comme campement, et peu à peu c'est devenu une ville. Et il ne faut pas confondre avec Bousra. Bousra, c'est une ville syrienne qui se trouve au sud de Damas et qui, dans la biographie du prophète, a une importance capitale parce qu'on dit dans cette biographie que le prophète dirigeait une caravane en direction de Byzance et un prêtre ou un moine chrétien avait dit que ce jeune homme sera choisi par Dieu pour diffuser un message divin. Donc, en quelque sorte, c'est la reconnaissance du christianisme de l'authenticité, reconnaissance de l'islam comme religion monothéiste. Ensuite, Bagdad. Bagdad, qui a été fondé par les Abbasides, par le deuxième calife, en 762. Le site a été judicieusement choisi parce que il se trouve à un point où les deux fleuves de l'Irak, le Tigre et l'Euphrate, Dijle ou Al-Furat, se rapprochent le plus. Mais toute cette région est une région où se trouvait toujours une capitale importante. Ctésiphon, la capitale sassanide, n'est qu'à 40 kilomètres de Bagdad. Babylone, à 80 kilomètres, je pense, au sud de Bagdad. Et El Koufa n'est pas loin non plus. El Koufa, qui était capitale du quatrième calife, Ali, et qui était en quelque sorte la capitale de la province d'Irak pendant toute la période Omeyyade. Et auparavant, El Hira, la capitale de la dynastie Lahmide, Al-Manadhira. Sour, c'est la ville de Tyr, au Liban. Et Saïda, c'est Sidon. As-Sawira, une ville du Maroc. Al-Jazair al-Asima. Al-Jazair, c'est Alger. Et on précise al-Asima pour éviter la confusion avec l'Algérie. Parce qu'Al-Jazair ne change pas entre Alger et Algérie. Et c'est pareil pour Tunis. Tunis, ça peut être la Tunisie, ça peut être Tunis. Et si on ajoute al-Asima, la confusion est levée. Tunis al-Asima. Isfahan. Isfahan, qui se trouve en Iran. Sana'a, la capitale du Yémen. Al-Khurtoum, la capitale du Soudan. Khan Yunis, qui se trouve à Gaza, sauf erreur. Madain Saleh, une ville antique sous forme de ruine actuellement, qui se trouve au nord de l'Arabie Saoudite et qui fait l'objet de fouilles et de travaux de restauration par des archéologues de plusieurs pays occidentaux, dont la France. El Khalij, le Golfe. Mais si on dit El Khalij, il y a plusieurs Khalij à travers le monde. Mais l'actualité nous ramène toujours vers le même. Donc El Khalij, tout seul, on le comprend. Mais comment l'appeler? En français, on dit le golfe persique, mais les Arabes l'appellent le golfe arabe. Donc ça pose un problème pour les éditeurs, éditeurs d'Atlas surtout. Alors si les clients se trouvent dans les pays arabes, il faut mettre Al-Khalij al-Arabi. Et si les clients se trouvent en Iran, ils vont mettre Al-Khalij al-Farisi. Et certains journalistes ont essayé de concilier tout le monde, mais je pense que ça n'a pas marché. Mais l'appellation a été utilisée Al-Khalij al-Arabi al-Farisi, arabo-persique. Après, Al-Sahra al-Kubra. Le mot Al-Sahra, tout court, ça veut dire le désert. Alors, lorsqu'en français on dit le Sahara, ça vient de Sahara. Mais le Sahara désigne un désert précis, qui est en arabe Al-Sahra al-Kubra. En deux mots, impossible de le réduire au mot Al-Sahra. Al-Sahra al-Gharbiyya, c'est le désert occidental. C'est le Sahara occidental. Al-Rub' al-Khali. Al-Rub' al-Khali, c'est un désert d'Arabie qui est inhabité, totalement inhabité, hostile, où des tempêtes de sable sont quasi permanentes, mais qui se trouve entre le centre d'Arabie et Oman. Et alors, Al-Rub' al-Khali, il est probable que à l'origine c'était Al-Rab'. Al-Rab', ça veut dire territoire. Mais bon, aujourd'hui on dit Rab' al-Khali. Khali, ça veut dire vide, vide d'habitants. Et il y a très très peu de points d'eau, très peu d'arbres. C'est vraiment et c'est quelque chose qui mérite d'être observé avec Google Maps, par exemple. Al-Maghrib al-Arabi. Al-Maghrib al-Arabi, on a dit que c'était le Maghreb. Mais si on oublie l'Arabie, ça devient le Maroc. As-Sa'id. As-Sa'id, c'est la partie sud de l'Égypte. Ensuite, on a une liste de noms propres de personnes. Alors, avec pas mal de références bibliques et historiques. Ça commence par Adam ou Hawa, Adam et Ève. Habil ou Kabil, c'est leur fils. Habil, c'est Abel, ou Kabil, Cain. Noé, et Sam, c'est un de ses fils. Et d'où le sémitisme. Donc, elle s'est le sémitisme, Al-Ada al-Samiyya, c'est l'antisémitisme, Al-Lughat al-Samiyya, c'est les langues sémitiques, etc. Ibrahim al-Khalil, c'est Abraham. Al-Khalil, c'est l'ami, donc l'ami sous-entendu, l'ami de Dieu. Ibrahim al-Khalil, d'où le nom de Hébron, où il aurait été enterré, et le mot Khalil est devenu un prénom assez courant hein, chez les Arabes, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Alors, Sarah Wahajar. Sarah Wahajar. Alors, Sarah, c'est la femme officielle, l'épouse officielle d'Abraham. Et Hajar, c'était sa servante. Mais chacune des deux a eu un fils. Sarah a enfanté Ishaq et Hajar Ismaïl. Alors, le thème du sacrifice d'Abraham a deux versions. Une version judéo-chrétienne où l'enfant qui devait être sacrifié, c'était Ishaq, et une version musulmane qui désigne Ismaïl comme l'enfant qui devait être sacrifié, qui a été sauvé au dernier moment. Yaqub, Jacob. Et le fils de Jacob le plus connu, c'est Youssouf. Youssouf. Moussa ou Haroun, Moïse et Haroun. Daoud ou Suleyman. Donc donc David et Salomon. Balkis, Balkis, c'est la reine de Saba. Ayoub, c'est Job. Younis, Jonas. Zacharia, c'est clair. Maryam bint Omran. Maryam bint Omran. Alors, la généalogie, version musulmane, d'après le Coran, diverge parfois avec la généalogie établie par les spécialistes de la Bible. En principe, enfin, pour les musulmans, Maryam bint Omran, c'est Marie. Yahya al-Ma'midan. Yahya al-Ma'midan, c'est Jean-Baptiste. Et Maryam al-Avra, donc c'est Marie la Vierge. Et al-Avra, parfois, suffit pour désigner la Vierge. Isa al-Masih, Jésus le Christ. Mais il est qualifié dans le Coran et dans la traduction musulmane, Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie. Alors que on ne peut pas citer le nom de la mère pour les Arabes, là c'est ça pose un problème. Et c'est vraiment l'unique exception où le mot Ibn est utilisé entre le prénom d'un homme et sa mère. Isa ibn Maryam. Maryam al-Majdaliyya, c'est Marie-Madeleine. Maryam al-Majdaliyya. Al-Khansa, rien à voir avec la Bible, c'est une poétesse d'Arabie qui s'est rendue célèbre pour les poèmes qu'elle a composés en souvenir de son frère qui a été tué par des adversaires et dans lesquels elle criait vengeance. Othman ibn Affan, c'est le troisième calife, et qui était du clan Umayyad. Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah. Alors, c'est intéressant de comparer Othman ibn Affan et Al-Mu'tasim Billah. Othman ibn Affan, pendant toute la période donc de la mort du prophète jusqu'à la fin du califat Omeyyad, le calife était identifié par son prénom, ensuite Ibn, et ensuite le prénom de son père. Ce n'est pas le cas de Abu Bakr. Abu Bakr Sadiq, le premier, fait exception. Mais ensuite, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Muawiyah, etc. Avec les Abbasides, l'appellation change. C'est toujours un adjectif, Al-Mu'tasim, par exemple, Al-Mu'tasim, et un moyen de le rattacher à Dieu. Donc, Al-Mu'tasim Billah, souvent c'est avec la préposition « bi », mais parfois c'est « Allah ». Alors, Al-Mu'tasim Billah, c'est celui qui demande refuge auprès de Dieu, qui est protégé par Dieu, soutenu donc par Dieu. Et ce calife qui a gouverné au début du 9e siècle est celui qui a fondé la ville de Samara, au nord de Bagdad. Il voulait en faire la capitale de l'Empire, et c'était le cas pendant son règne, et pendant une cinquantaine d'années avant de revenir vers Bagdad. Al-Wathiq Billah, c'est son fils. Al-Mustansir Billah, là c'est un calife tardif de la dynastie abbasside qui a gouverné longtemps, je pense une quarantaine d'années, et qui a laissé des traces, dont une école, Al-Madrasa Al-Mustansiriyya, une école qui existe encore. Le bâtiment existe et est bien conservé et qui donne une idée de ce que c'était les universités de l'époque, qu'on appelait madrasa, mais c'était l'équivalent des universités d'aujourd'hui. La dernière colonne nous donne Ibrahim ibn al-Aghlab. Ibrahim ibn al-Aghlab, c'était un gouverneur de la Tunisie, donc de l'Ifriqiya, et qui a fini par prendre son autonomie par rapport à Bagdad et a créé une petite dynastie qui porte le nom de Al-Araliba. C'est tiré du nom de son père, Al-Aghlab. Abdurrahman Ad-Dakhil, c'est celui qui entre, ce serait un prince omeyyade qui a échappé au massacre, à la chute de la dynastie omeyyade et qui est allé jusqu'en Espagne. Et donc il est entré en Espagne et pour créer l'émirat omeyyade de Cordoue en 756. Abdurrahman Ad-Dakhil, son petit-fils, je crois que c'était son petit-fils, Abdurrahman An-Nasser. Donc on voit bien que le modèle choisi par les Omeyyades d'Espagne est encore différent. Et c'est un prénom suivi d'un qualificatif, mais sans lien avec Allah, qui était la règle pratiquement chez les Abbassides de Bagdad, sauf exception. Nouredine Zenki, c'était le chef des Zenkides et qui se battait contre les croisés, qui avait comme lieutenant Salah ed-Din Saladin, Salah ed-Din el-Ayyoubi. Et c'est Salah ed-Din qui finit par prendre le pouvoir en Égypte en mettant un terme à la dynastie Fatimide, 1170, je pense, et qui a laissé comme souvenir ses combats contre les croisés et son entrée à Jérusalem en 1187. Il est mort en 1193. Al-Othmaniyoun, ça c'est les Ottomans. Alors, le nom de la dynastie se réfère à Othman. Il n'a rien à voir avec Othman ibn Affan, le troisième calife. Non, c'était le nom de leur chef lorsque ces hommes ont réussi à s'imposer sur un vaste territoire à l'ouest de l'Anatolie, donc au sud de Byzance. Et après, c'est un de ses descendants, Mohammed el-Fatih, qui a conquis Constantinople en 1453. Et le mot el-Fatih, ça veut dire le conquérant. On le trouve aussi avec Guillaume el-Fatih de Normandie. Il nous reste cinq noms. Ce sont des anges. Et pour dire un ange en arabe, c'est Malek. Ça s'écrit comme Malik, mais se prononce Malek. Alors, Jibra'il, on le connaît. Israfil, ça c'est Raphaël. Mikha'il, Michel. Iblis, c'est Satan. Et le dernier, c'est celui qu'on aimerait le moins voir. Azraïl, c'est l'ange de la mort. Azraïl. Alors après, on a un exercice où il faut regarder bien le terme de parenté utilisé et compléter chaque phrase. Bon, si on fait la première, Adam, huwa zawj. Donc Adam, Adam est le mari de qui? Zawj Hawa. N'est-ce pas? La réponse se trouve dans la partie supérieure de la page. Il y aura peut-être une difficulté quelque part parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Par exemple, à la sixième ligne de la colonne de gauche, Huwa wahid min al-khulafa al-abbasiyin. Il est l'un des califes abbassides. Là, on a le choix entre une quarantaine de califes. Normalement, on a une réponse imposée. Peut-être la dernière ligne, min al-mala'ika. Al-mala'ika, les anges. Donc là, on peut citer un ou plusieurs anges, min al-mala'ika. En tout cas, il y a un corrigé, page 255, et il serait bon d'essayer de le faire. Et sachant que tous ces noms bibliques, les prénoms, sont très courants chez les Arabes, quelle que soit leur religion. On a des Ibrahim de partout, des Ishaq, des Yaqoub, Youssouf, c'est très répandu Youssouf, et très populaire. Mariam, pour Marie, et Mariam est très très courant comme prénom, qui rivalise avec Leïla, avec Fatima, avec Aïcha, etc. Bien, on s'arrête là pour cette page 140.